Journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Une nouvelle plainte contre X pour trouver d'éventuels responsables dans la crise sanitaire. Elle émane du collectif Interurgence, mobilisé pour la défense de l'hôpital public. Les explications de Tara Schlegel dans un instant. À l'Assemblée, devant la commission d'enquête, Xavier Bertrand pointe la responsabilité du gouvernement socialiste dans la pénurie de masques en France. Xavier Bertrand a été le dernier ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy. Une première dans l'histoire de la métropole de Lyon, un écologiste, Bruno Bernard, a été élu ce matin président de cette toute jeune collectivité locale. En Éthiopie, le meurtre d'un célèbre chanteur provoque de sanglantes manifestations avec plusieurs dizaines de morts. Des rivalités intercommunautaires sont à l'origine de cette flambée de violence. Le contentieux judiciaire autour de la crise sanitaire s'est encore alourdi aujourd'hui. L'avocat Arié Halimi a porté plainte contre X ce matin pour obtenir une enquête. Il représente le collectif Interurgence, mobilisé pour la défense de l'hôpital public, un collectif à l'origine de la grève des urgences à l'automne dernier. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Les plaignants estiment que les personnels soignants ont été mis en danger par les pouvoirs publics.
La plainte vise quatre infractions. Homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, et ce que pressent maître Arié Halimi, c'est qu'il y a peut-être aussi une abstention volontaire à prévenir un sinistre, autrement dit un choix politique que personne n'a encore reconnu.
Il ne suffit pas de dire « Ah, on a menti parce qu'on n'avait pas de masque et donc on voulait vous protéger ». Le véritable problème, c'est de savoir pourquoi il n'y avait pas de masque. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dépisté ? Est-ce qu'il y avait une incompétence, des fautes ? Mais surtout, est-ce qu'il n'y avait pas une volonté réelle qui était de faire le choix de l'immunisation collective, justement en prenant le moins de précautions possibles pour qu'il y ait le plus de personnes contaminées rapidement.
Ce choix, cette stratégie n'est qu'une hypothèse, la justice l'examinera. L'important, c'est justement qu'un juge déploie ses pouvoirs d'enquête. Car les auditions qui sont en cours en ce moment au Parlement ne suffisent pas, estime l'infirmière Yasmina Kétal du collectif.
L'heure n'est pas à l'autocritique, visiblement. Entendre Madame Buzyn qui dit qu'elle a largement anticipé, mais enfin, je sais pas, c'est quand même un peu honteux. Il y a eu une telle tension au niveau du matériel de protection qu'on ne peut pas estimer que la préparation a été optimum.
L'une des choses les plus difficiles à vivre, disent aujourd'hui les soignants, c'est que les instructions pendant la crise n'ont cessé de changer pour gérer une pénurie qui ne disait pas son nom. Nicolas Cazolias, aide-soignant, membre du collectif.
On nous impose par exemple un protocole assez strict qu'on applique, et si après, quelques jours après, les stocks diminuent et qu'on nous impose un protocole moins strict, on se dit, attendez, là ils veulent vraiment nous protéger, maintenant ils veulent moins nous protéger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça rime à rien. On a le sentiment d'être pas grand-chose.
Voilà, ils veulent donc faire la lumière, comprendre pourquoi, rien que dans l'hôpital de Nicolas, par exemple, 250 agents sont tombés malades.
Tara Schlegel, merci. Comprendre et établir les responsabilités dans la gestion de la crise sanitaire, c'est aussi l'enjeu de la commission d'enquête à l'Assemblée. Plusieurs anciens ministres de la Santé sont venus expliquer comment la France s'était préparée à l'apparition d'une pandémie depuis une dizaine d'années. Ce matin, les députés ont entendu le témoignage de Xavier Bertrand, qui a occupé le poste sous Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012. Xavier Bertrand qui pointe la responsabilité de son successeur socialiste Marisol Touraine dans la pénurie de masques en France. Vous avez suivi son audition, Wafia Kenich.
Xavier Bertrand abrège son introduction. On sent le président de la région des Hauts-de-France pressé d'en découdre. Il pointe très vite la responsabilité de Marisol Touraine. La ministre de la Santé de François Hollande a décidé de laisser la gestion des stocks de masques aux employeurs. Une décision prise en 2013 qui, selon Xavier Bertrand, aurait des conséquences jusqu'à aujourd'hui.
À partir de cette date, vous rentrez dans un trou noir avec des bagarres entre le ministère du Budget et le ministère de la Santé, et au sein du ministère de la Santé, entre la direction de la Sécurité sociale et l'assurance maladie. Qui paye pour les libéraux? Et quand on est à se poser les questions sans y apporter de réponse, il se passe une chose, c'est que plus personne n'est couvert. Voilà. Et là, vous avez un délitement de la responsabilité, et c'est à partir de cette date que le ver est dans le fruit.
L'argent est alors passé avant la santé publique, estime et regrette l'ancien ministre de la Santé qui ne se contente pas de charger Marisol Touraine.
Je n'imagine pas un ministère de la Santé produire une telle doctrine. C'est tout simplement parce qu'on est sur une autre logique. Parce que quand c'est chaque employeur qui paye, c'est plus l'État qui paye. Mais ça fait des économies de 3 francs 6 sous et au bout d'un moment, vous avez aussi un drame.
Un drame que nous venons de traverser, mais qui, selon Xavier Bertrand, trouve l'une de ses sources 7 ans auparavant.
Wafia Kenich, merci. Ce n'est que le 28 juillet prochain que l'actuel ministre de la Santé, Olivier Véran, viendra s'expliquer devant cette commission d'enquête de l'Assemblée. La justice reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État dans le scandale de la Dépakine. Le tribunal administratif de Montreuil a examiné les plaintes de 3 familles dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à cet antiépileptique. L'État a manqué à ses obligations de contrôle en ne prenant pas les mesures adaptées. Il a engagé sa responsabilité. Voilà ce qu'estime le tribunal qui condamne l'État à indemniser les familles des montants qui vont de 20 000 à 200 000 euros en fonction de la date de naissance des enfants. Car pour les juges de Montreuil, avant 2004, les connaissances médicales étaient insuffisantes pour juger l'État responsable des troubles autistiques. Marine Martin est la présidente de l'APESAC, l'association des victimes de la Dépakine. Elle dénonce une décision incompréhensible.
C'est une petite minorité de cas qui va être indemnisée. Hein. C'est donc des enfants nés à partir de 2004. Ça fait 8 ans que je mène ce combat, que je dénonce le scandale, que j'ai arrêté mon travail pour me consacrer à ça. Et aujourd'hui, j'ai dit à mes enfants, vous savez, je suis désolée, vous ne serez jamais indemnisés. Voilà ce que je leur ai dit, moi. Parce que l'État veut faire des économies, pose la date de 2004 parce que Sanofi, en 2003, a fait modifier des notices. Mais pour moi, c'est gravissime. En fait, voilà, la responsabilité de l'État, certes, elle est établie. Ils vont indemniser des familles sur 10 ans. Ouais, mais ça fait 50 ans que le médicament il est prescrit. Qu'est-ce qu'on fait pendant les enfants nés pendant ces 40 autres années? On va contester cette décision, on va argumenter, on va encore reproduire les mêmes documents que ce qui a été produit par le passé, c'est-à-dire démontrer qu'il y a eu des signalements aux instances de santé dès 1984 et que donc c'est cette date-là qui doit être retenue et pas celle de 2004 et des modifications de notices par Sanofi. On va continuer à se battre, mais j'avoue que je commence à perdre espoir parce que les victimes sont pas entendues, parce qu'on essaye de s'arranger avec la vérité et que du coup, la majeure partie des victimes ne seront pas indemnisées.
Marine Martin, présidente de l'association des victimes de la Dépakine, elle répondait à Aurélie Kiefer. Dans l'actualité politique, les écologistes ont pris ce matin les clés de la métropole de Lyon après leur large victoire de dimanche. Leur candidat, Bruno Bernard, a été élu président au premier tour de scrutin à la majorité absolue. L'occasion pour lui de rendre hommage à l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, fondateur de la collectivité Métropole. Le reportage à Lyon de Christophe Vincent.
Monsieur Bruno Bernard, ayant obtenu la majorité absolue, il est élu président de la Métropole de Lyon. Je lui adresse mes félicitations. Bravo.
À 49 ans, Bruno Bernard devient le premier président vert de la plus puissante collectivité de l'agglomération. D'emblée, il veut apparaître crédible.
Les dernières semaines de campagne ont laissé trop la place aux caricatures. Je n'aperçois aucun char fleuri à l'horizon du Grand Lyon. En revanche, j'espère que rapidement défilera une armée de vélos sur notre rêve, le réseau express vélo.
Bruno Bernard s'entoure de femmes comme Emeline Baum en charge de l'économie.
C'est renforcer drastiquement les transports en commun. Et puis c'est l'accompagnement des entrepreneurs qui se sont mis dans une démarche de transition écolo et accompagner celles et ceux qui n'y sont pas et qui subissent la crise en ce moment.
Redevenu élu de base, Gérard Collomb connaît bien Bruno Bernard.
Je l'ai connu dans sa jeunesse puisqu'avec son père, nous avions fondé le PS. Nous jugerons sur pièce.
Très applaudi, Gérard Collomb verse une larme. Samedi, il ne sera plus maire. Dure semaine.
Un samedi où c'est un autre écologiste, Grégory Doucet, qui prendra les clés de la mairie de Lyon. À Marseille, Martine Vassal ne sera pas candidate à la succession de Jean-Claude Gaudin. Samedi, la tête de liste Les Républicains se retire au profit du député LR Guy Tessier. La droite a été largement distancée dimanche par les listes de la gauche unie emmenées par Michel Rubirola. Mais le scrutin marseillais par secteur rend très incertaine l'élection au fauteuil de maire. C'est une figure terrifiante du djihadisme français qui est jugée en ce moment par la cour d'assises spéciale de Paris. Tyler Villus est accusé d'être impliqué dans l'exécution de prisonniers en Syrie entre 2013 et 2015. C'était un membre actif de l'État islamique. La justice française l'a rattrapé. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maret.
Tyler Villus, on voudrait savoir ce que vous êtes devenu et comment vous voyez votre avenir. Face à cette interrogation du président, l'accusé fait preuve, comme à son habitude, d'une certaine décontraction. Sa parole est abondante, sans la moindre hésitation. « J'ai vu la guerre, j'ai vu ce que ça fait, le cercle vicieux, quand chaque mort est une justification à continuer la guerre. » Tyler Villus se présente donc comme opposé à la guerre en général. Qu'en est-il du djihad ? Qu'est-ce que le djihad a apporté à la Syrie, à la Libye, s'interroge-t-il. Puis il poursuit. Qu'est-ce que la guerre a apporté d'une manière générale? La guerre apporte la mort. La guerre, c'est les civils qui la payent. Quand le président parle du djihad ou de l'État islamique, Tyler Villus répond par le mot « guerre ». Il précise qu'il n'a plus d'engagement djihadiste, mais qu'il reste un musulman convaincu et pratiquant. Un musulman qui désormais n'appartient plus à aucun groupe. Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'Association française des victimes du terrorisme, partie civile, s'adresse à Tyler Villus. « Vous avez généré beaucoup de souffrances dans votre parcours, chez un nombre incalculable de personnes. » Maître Claire Josserand-Schmitt revient sur l'assassinat filmé de deux prisonniers en pleine rue, en présence de Tyler Villus, et elle lui répond « Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de terrorisme ». Elle ne croit pas à une déradicalisation sincère de Tyler Villus pour une raison, il continue à nier sa participation au meurtre filmé. L'avocate souligne ce qu'elle considère être un paradoxe. « Monsieur Villus, vous dites « j'ai changé » alors que vous n'admettez pas la vérité. C'est très compliqué de vous suivre dans cette voie-là. »
Antoine Maret, depuis le palais de justice de Paris, a noté que l'avocat général a dû interrompre ses réquisitions tout à l'heure, victime d'un malaise. Il devrait reprendre sa plaidoirie demain matin si son état de santé le permet. Quatre policiers de Seine-Saint-Denis mis en examen pour faux et usage de faux en écriture. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Trois de ces fonctionnaires sont également poursuivis pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. En Éthiopie, le meurtre d'un célèbre chanteur a provoqué 3 jours de manifestations sanglantes. Environ 90 morts selon le dernier bilan. Le chanteur Achalu Hundessa a été tué par balle lundi soir à Addis Abeba, la capitale. On ne connaît pas le motif de ce meurtre, mais l'événement a suffi à déclencher des violences intercommunautaires. Nathalie Hernandez.
C'est une icône que vient de perdre l'Éthiopie et les Oromo, ethnie majoritaire dans ce pays de 110 millions d'habitants. Le chanteur Achalu Hundessa, tué lundi, était un de leurs fervents défenseurs, les Oromo s'estimant marginalisés depuis des décennies. Entre 2015 et 2018, il avait été leur porte-voix pendant les manifestations antigouvernementales, une contestation inédite qui avait conduit au pouvoir Abiy Ahmed, lui-même Oromo et lauréat du Nobel de la paix l'an dernier. Le Premier ministre s'est efforcé de mener des réformes, mais sans pouvoir endiguer les violences communautaires. La mort de l'artiste a donc déclenché une vague de protestations dans la capitale et ses alentours. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements entre membres de différentes communautés et dans des heurts avec les forces de sécurité. Un climat de tension amplifié avec l'arrestation de Jawar Mohamed, principal opposant au Premier ministre. Le dirigeant de l'opposition a été interpellé avant-hier avec 34 autres personne alors qu'il tentait d'empêcher le convoi funéraire de quitter Addis Abeba pour Ambo, le fief de l'artiste, ses partisans souhaitant des obsèques nationales. Désormais, ils appellent à manifester jusqu'à la libération de l'opposant. L'armée a été déployée et Internet coupé dans la capitale pour empêcher tout rassemblement.
Nathalie Hernandez, merci. À Hong Kong, au lendemain de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sécuritaire chinoise, les manifestants s'organisent. Ils cherchent le moyen de continuer la contestation face à ce nouvel outil de répression imposé par Pékin. Le reportage de notre correspondante sur place, Florence de Changy.
À peine le projet de nouvelle loi annoncé, ils ont été des milliers à équiper leur ordinateur et leur téléphone de VPN, à effacer leurs photos, contacts et tout ce qui, dans leur présence en ligne, pouvait trahir leur engagement. Sur les groupes de discussion habituels, Telegram et LinkedIn, le trafic a considérablement faibli. Mais ce que les manifestants redoutent aujourd'hui, c'est d'être dénoncés par des proches, voisins, ou même membres de leur famille. Un incident hier a confirmé leur crainte quand le jeune homme qui avait délibérément blessé un policier a été dénoncé par un proche à la police qui a donc pu l'arrêter quelques heures plus tard alors qu'il était déjà à bord d'un vol à destination de Londres. Tommy, manifestant de la première heure, craint que l'offre faite par l'ancien chef de l'exécutif, Si Wai-lung, de payer jusqu'à 120 000 euros toute dénonciation, place beaucoup de manifestants en danger.
Si Wai-lung share all today is like he and the Beijing government have just like maybe a million Hong Kong dollar to just like report to the police and report to the security department.
Face à ce que certains appellent une période de terreur qu'ils qualifient de nouvelle révolution culturelle, les militants qui veulent continuer leur combat doivent entrer en résistance et continuer de manière clandestine.
Florence de Changy a noté qu'un des leaders de l'opposition, Nathan Lo, annonce ce soir s'être enfui de Hong Kong. Retour en France pour un mot du temps demain. Il sera variable sur l'ensemble du pays et orageux sur les reliefs du sud-est. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 21 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 18 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetou.